Est-ce que la graisse se transforme en muscle? La ponctuation a son importance. En effet, je pose la question dans le titre de cet article, avec une pointe d'ironie, comme s'il était besoin de poser la question. Et pourtant, il semblerait que ce ne soit pas très clair. Il y aurait donc une sorte de conversion magique. La graisse se transformerait en muscle, l'eau en vin, le plomb en or. Nous aurions donc à faire un processus alchimique issu de sciences occultes, mélange de techniques chimiques et de spéculations mystiques. Le muscle se logerait donc en lieu et place où la graisse répand son manteau d'adipocytes. Ce serait donc une sorte de transmutation. Il faudrait peut-être d'abord comprendre, de façon simple et concise, ce qu'est la graisse. C'est quoi la graisse? C'est une structure anatomique spécifique constituée d'adipocytes dont la fonction est de stocker des lipides. Ceci constitue donc une partie importante des réserves d'énergie de l'organisme. Lorsque la capacité de stockage des adipocytes est arrivée à saturation, ceux-ci se divisent, créant de nouveaux adipocytes. On appelle cela le processus de mitose. La graisse est localisée en grande partie sous la peau, également autour de certains organes, entre les muscles, mais aussi sous forme de graisse viscérale, que l'on appelle aussi graisse abdominale. Mais alors, si la graisse ne se transforme pas en muscle, que devient-elle? La perte de graisse est la conséquence de la libération d'atomes de carbone, d'hydrogène et d'oxygène contenus dans les cellules graisseuses. Ainsi, lorsque vous perdez 1 kg de graisse, 840 g se volatilisent en dioxyde de carbone, donc en CO2, et sont donc évacués par les poumons, et les 160 g restants sont transformés en eau, puis éliminés par l'urine, la sueur et les autres liquides corporels. Voici un article intéressant dont vous trouverez le lien dans mon article. Donc c'est un article intéressant, mais qui est en anglais, dont le titre est When somebody loses weight, where does the fat go? Donc voilà, lorsque vous perdez ce poids, où va cette graisse? Donc c'est un article donc intéressant, qui développe de façon très simple et factuelle le processus. Donc c'est publié dans le très sérieux British Medical Journal. Et voilà, donc je vous engage vraiment à lire cet article. Donc comment peut-on perdre cette graisse? Ou en prendre d'ailleurs? Juste un rappel dans l'éventualité où vous n'auriez pas compris le processus. Pour perdre la graisse, il faut démobiliser l'énergie stockée. La graisse est une réserve de calories excédentaire, une sorte de grenier à blé, donc votre matelas. Tout ce qui déborde, parce que vous n'en avez pas besoin, le trop-plein, vient enrichir votre capital, kilo après kilo. Ainsi, pour perdre de la graisse, vous devez pousser le corps à aller chercher l'énergie que vous ne lui apportez pas par l'alimentation et dont il a besoin. Le principe est donc inévitablement de manger hypocalorique, c'est-à-dire ingérer moins de calories que vous n'en dépensez. L'excellente idée supplémentaire est que vous ayez en plus une activité physique énergivore qui augmentera alors vos dépenses. Donc je vous donne un petit exemple dans l'article, simple, donc factuel. Donc perte de graisse, c'est-à-dire dépense énergétique, c'est un exemple, hein, dépense énergétique de 2500 calories. Apport énergétique 1500 calories, le différentiel 1000 calories que votre organisme ira puiser dans vos réserves. Et pour accumuler des réserves, c'est-à-dire prendre de la masse grasse, donc ce sera exactement l'opération inverse. Vos dépenses énergétiques sont de 2000 calories, encore une fois c'est un exemple. Vous apportez 3000 calories, le différentiel c'est 1000 calories que votre organisme stockera dans vos réserves. Je vous pose une autre question. C'est quoi les muscles. Je vous ai parlé de la graisse, maintenant on parle des muscles. Les muscles sont organisés en faisceaux, eux-mêmes formés de structures cylindriques, contractiles, constituées de fibres musculaires garnies de filaments, qu'on appelle également sarcomères, constituées de myofibrilles. Donc ces filaments donnent le pouvoir aux muscles de se contracter puis de se détendre. Ils sont de deux sortes, on les appelle actine et myosine, et disposés de façon alternée. Lorsque vous contractez vos muscles, l'actine et la myosine glissent l'une contre l'autre pour s'accrocher, s'accrochent entre elles, et elles épaississent ainsi le muscle qui se raccourcit. Donc plus l'intensité est élevée, plus la contraction est forte, et plus le nombre d'accrochages entre les filaments, est par conséquent important. C'est à la fois le volume de contraction et leur intensité qui épaississent les fibres, grâce à l'accroissement du diamètre et de la longueur des myofibrilles. Grâce à l'entraînement musculaire, et notamment grâce à la pratique de la culture physique, les fibres musculaires accélèrent le taux de synthèse des protéines, donc actine et myosine. Voilà, c'est pas plus compliqué que cela. Donc les muscles ont de multiples fonctions. Ils participent, entre autres, à assurer des qualités physiques essentielles, comme la force, la puissance, la vitesse, la résistance, l'endurance, la coordination. De fait, ils participent donc au mouvement et contribuent à maintenir notre posture. Ils ont également un rôle essentiel dans les mouvements des organes internes, comme par exemple la contraction du cœur, bien sûr. Je vous recommande un autre article de l'Institut de myologie qui traite avec précision des différents types de muscles. Donc vous trouverez le lien dans mon article, sous le nom de « Connaissances sur le muscle ». Comment pouvons-nous prendre du muscle ou en perdre? Vous l'aurez évidemment compris, avant tout, il va falloir faire du sport. Ah, nous parlons essentiellement des muscles striés, ceux qui servent à la locomotion, au maintien, donc ce qu'on appelle la statique, et au mouvement. Ils dépendent de notre système nerveux volontaire. Nous avons donc une action directe sur leur capacité, en fonction évidemment de notre implication, évidemment. Toujours cette même implication qui fait des miracles, ou qui vous fait défaut, et qui anéantit ainsi toute forme de progression musculaire possible. Donc nous ne parlerons pas là du muscle cardiaque et des muscles lisses, sur lesquels notre volonté, en tout cas sur ce que la science sait aujourd'hui, n'a pas d'influence. Voilà donc le processus pour augmenter son volume musculaire. Il s'accompagne évidemment d'une alimentation adéquate, de suffisamment de récupération et d'un état d'esprit impliqué. Voici ci-dessous, maintenant, je vais vous l'expliquer, le processus pour perdre de la masse musculaire. Sachez qu'elle est avant tout étroitement liée à l'inactivité, bien sûr. Tous les pratiquants de musculation savent à quel point ils perdent rapidement leur volume musculaire, leur force, leur qualité physique d'un point de vue général. Je vous conseille d'ailleurs de lire encore un autre article, alors je suis désolé, il est en anglais, très intéressant sur ce phénomène. Donc il vous explique, cet article, combien de temps vous mettez à... quel est le processus en fait, et combien de temps vous mettez pour perdre votre masse musculaire, votre force et votre endurance. Vraiment un article intéressant. La perte de la masse musculaire est également associée évidemment à l'âge. Donc il n'y a pas que l'inactivité, il y a aussi l'âge. Et il y a une maladie donc dégénérative qu'on appelle la sarcopénie. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans d'autres articles. Donc la sarcopénie, c'est un syndrome en fait qui est lié au vieillissement. Et un de ces symptômes correspond à une perte progressive et généralisée du volume musculaire ainsi que de la force. La dégénérescence musculaire est aussi la résultante de maladies, notamment du cancer, de l'hyperthyroïdie et de certaines infections. L'atrophie musculaire peut aussi s'expliquer par une mauvaise absorption des nutriments. quand j'entre notamment la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn et la maladie cœliaque. Évidemment, vous absorbez, vous avez plus de difficultés à absorber les nutriments énergétiques et de fait, eh bien, l'anabolisme protidique se fait beaucoup moins bien. En conclusion, il est donc aisé de comprendre que la graisse et le muscle sont deux entités totalement distinctes, possédant des structures moléculaires parfaitement différentes. Vous pouvez sans aucun doute perdre de la graisse et, d'autre part, prendre du muscle. Ce ne sont pas deux choses incompatibles, mais il ne pourra jamais y avoir aucune transformation de l'un en l'autre. Ai-je besoin de souligner que l'inverse ne sera pas possible non plus? Le muscle ne peut pas se transformer en graisse. Je pense que vous l'aviez compris. Vous pourrez à présent affirmer que la graisse ne se transforme pas en muscle et en expliquer le processus. En tout cas, je l'espère. Ce que je vous explique vous semble logique? Prenez le temps de réfléchir avant d'agir.